Julia Marine Chamaudon, qui bah, t'as fini ton doctorat et tout, hein. Donc, bon, t'as fait un master en danse thérapie création artistique à l'université de Paris. Doctorat au sujet de la danse mouvement thérapie. Tu es enseignante chercheuse en psychologie à l'université de Lyon 2 et chercheuse associée du laboratoire, comment tu prononces, DIFE, au DIPHE. Tu nous diras un petit peu plus précisément ce que c'est. Et tu travailles principalement en psychiatrie et dans la protection de l'enfance. Et tu nous proposes aujourd'hui un échange autour de la relation thérapeutique en danse-mouvement-thérapie, un ajustement au plus près. Merci beaucoup, Julia, et bienvenue.
Merci beaucoup Paula pour cette présentation. Merci aussi à toutes les intervenantes et intervenants de la table ronde. Moi, ça m'a fait penser à un article d'Edith Lecourt qui s'appelle l'art thérapeute, pardon, un soignant pas comme les autres. Et puis, ça m'a fait également penser quand vous parliez de la question du temps. Eh bien, ça me faisait dans les accompagnements thérapeutiques, ça me faisait penser à un cas clinique de Catherine Yelnik qui avait accompagné un patient adolescent qui s'appelle Pierre sur 3 à 4 ans. Et elle montre comment justement la dimension du temps est parfois très, très importante et ça ne va pas forcément avec des prérogatives institutionnelles, des objectifs financiers, etc., actuels qu'on peut entendre. Donc, c'est intéressant cette question du temps psychique et puis voilà, ce que ça mobilise après dans le principe de réalité. Voilà. Ceci dit, bah, merci beaucoup Paula de m'avoir présenté. Donc, oui, je suis enseignante-chercheuse maintenant à Lyon 2 et donc au laboratoire DIF, tu l'as très bien prononcé. DIF, du coup, ça signifie développement, individu, processus, handicap, éducation. Et donc, moi, je m'occupe plus particulièrement dans mon enseignement et dans mes recherches de la transmission, en fait, de l'art comme possibilité de soin. Voilà, donc c'est assez large, mais ma spécialité, c'est bien sûr tout ce qui concerne les médiations thérapeutiques corporelles, notamment la danse mouvement thérapie. Voilà, et puis parallèlement à ça, donc moi je suis enseignante-chercheuse à Lyon 2, mais je suis également étudiante à Lyon 2, puisque j'ai repris aussi un cursus en tant qu'étudiante en formation continue, et donc je suis en clinique en tant qu'étudiante à Lyon 2 en formation continue. Parallèlement au fait que je suis également enseignante-chercheuse en psychologie aussi, mais en développement dans la même université. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une recherche que j'ai faite lors de ma thèse de doctorat du master création artistique danse-thérapie de Paris 5 Descartes, qui ensuite, pour moi, a évolué vers une thèse de doctorat au sujet de la danse-mouvement-thérapie. Donc, j'avais envie de vous partager notamment eh bien, ce travail-là. Comme il s'agit avant tout d'une présentation qui parle de corps, de mouvement, de danse, j'avais envie eh bien, de vous proposer un petit temps pour sentir et écouter notre corps. Du coup, je vous invite à fermer les yeux si cela est confortable pour vous ou alors à les laisser ouverts si vous préférez. Je vous ai mis une petite image un peu paradisiaque, en tout cas, qui pour moi m'invite au paradis. Et je vais utiliser le tutoiement afin de m'adapter, de m'adresser le plus directement à vous dans ce moment. Donc, alors, on va prendre quelques instants pour écouter ta respiration. Est-ce qu'elle est rapide ou lente? Est-ce que tu peux peut-être la ralentir un peu en expirant et en inspirant plus longuement? Peut-être que tu peux remarquer des parties de ton corps qui sont un peu crispées ou tendues. Tu peux les détendre. Relâchez un peu plus à chaque expiration. Sens à présent les appuis de tes pieds avec le sol, le contact de ton bassin, de tes ischions qui reposent sur l'endroit où tu es assise. Peut-être tu peux t'imaginer à présent que tu descends à l'intérieur de toi, en toi, comme pour atteindre un endroit très profond à l'intérieur de toi. Tu peux te servir de l'image d'escalier. Tu descends, marche après marche, ou toute autre image que tu préfères. Tu peux aussi juste sentir autour de ton nombril, de ton centre, le gonflement et le creux que crée ta respiration. Bien, à présent tu es davantage détendu peut-être et tu peux commencer à écouter les bruits autour de toi. Voilà, et progressivement tu refais surface, tu ouvres lentement les yeux pour prendre de nouveau conscience de ton environnement, de la salle dans laquelle tu es, tout en gardant l'état de ton expérience que tu as eu, peut-être du côté de la tranquillité, du calme. Voilà, merci à toutes et à tous de vous être prêtés à cette expérience. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Je souhaitais débuter cette présentation par un petit temps corporel, puisque en fait la démarche de cette recherche que je vais vous présenter, elle est holistique, éminemment. En cela, bon, il s'agit de sentir et d'appréhender les informations de notre environnement, autant du point de vue somatique que psychique. Et d'ailleurs, remarquez que j'ai utilisé des images mentales pour vous guider lors de ce temps corporel. L'intervention va se dérouler en trois points. Premièrement, du coup, je vais vous parler de l'observation participante, de ce que ça a de nécessaire pour l'élaboration d'objectifs thérapeutiques ajustés. Et puis ensuite, nous verrons la relation transférentielle, comme elle guide le processus thérapeutique. Et puis, en dernier lieu, on parlera de l'adaptation de la thérapeute, de la danse-mouvement thérapeute, dans ce cas-là, dans l'instant de la relation. Donc, ce que je voulais dire en préambule, c'est que les art-thérapies, ils ont ceci de singulier qu'ils sont des dispositifs alternatifs hein, aux pratiques de psychothérapie en cure verbale. Ça, je ne vous l'apprends pas. Et donc, en plongeant le sujet dans le processus de création, eh bien, on va réaliser un petit pas de côté par rapport aux accompagnements ordinaires. Et c'est là notre richesse. Donc, on peut observer au sein des institutions cliniques et médico-sociales, où on a souvent le statut hein, d'intervenant extérieur. Parfois, on est inclus dans l'équipe institutionnelle. Hein, on l'a vu avec Diakere, pardon. Et parfois, voilà, on est plus dans une position extérieure. Donc, on peut assister des fois à des réunions ou discuter nos cas cliniques. Et puis, pour autant, notre statut, il va pas nous permettre d'être salariés ou de participer activement au mouvement institutionnel interne. Donc, on est un petit peu en dedans, un petit peu en dehors, à la frontière de ce que Winnicott nommerait la transitionnalité. Et si j'évoque cette position particulière, hein, qui a été un petit peu abordée dans cette table ronde, c'est parce que la manière dont l'institution va nous porter, ça a été dit, hein, va influencer notoirement notre posture vis-à-vis des patients. Et donc, la relation patient-thérapeute, elle va se déployer en parallèle de la relation thérapeute-équipe ou thérapeute-institution, etc. Donc, il en va vraiment d'une perméabilité des cadres, voilà, le cadre interne de la thérapeute, le cadre du dispositif et le cadre institutionnel sont interconnectés. Et donc, c'est dans ce cadre singulier que se tisse l'espace de la relation thérapeutique, hein, dans cette intercommunication des cadres. Et la question qui domine, c'est comment se construit cette relation entre patient et thérapeute? Donc moi, l'expérience m'a appris que c'est l'observation participante, hein, le fait de jouer avec la patiente au sens winnicottien du terme, qui va permettre de projeter un lien, hein, de construire un lien avec elle ou avec lui. Et l'observation, ça rend aussi possible une interprétation des besoins du sujet. Ça laisse avoir ses attentes, sa construction psychique et corporelle. Et à ce titre, la psychologie du développement de Jean Piaget, elle va s'appuyer sur une observation, par exemple, très méticuleuse, très longitudinale du comportement des enfants pour construire un cadre d'analyse constructiviste clinique. Et puis, il y a également Daniel Stern, hein, qui a réalisé des observations très précises de la relation mère-bébé et qui vient aussi confirmer l'existence d'un temps précoce de la vie psychique. Et donc voilà, pareil à la mère qui reflète l'expression de son bébé comme autant de signifiants formels, eh bien, l'art thérapeute, il va venir échoïser, hein, avec cette notion d'écho, on fait écho, il va venir échoïser les mouvements associatifs du patient, de la patiente. Donc, dans un mouvement réflexif, là où le thérapeute, il va tenter de restituer au sujet, eh bien, la représentation du matériel inconscient. Et je reprends les termes de René Roussillon, hein, qui est un psychologue clinicien maintenant émérite de l'Université Lyon 2 et qui disait que nous sommes appelés à être le miroir du négatif de l'autre, hein, de négatif dans le sens pas à l'inverse du positif, mais dans le sens plutôt photographique, hein, de ce qui se dissimule, de ce qui n'est pas représenté, de ce qui ne se voit pas. Donc pour sentir le non-senti de l'autre, le mal senti de l'autre, le mal vu. Le non-entendu de l'autre, le mal dit de l'autre, etc., etc. Et donc l'attention, elle se porte là sur l'association de la forme, hein, qui est au cœur du travail de mise au jour de cette négativité agie du sujet, hein, donc de cette associativité. Et elle va trouver son inscription dans le symptôme, hein, souvent l'acte manqué ou alors toute autre forme de signifiant refoulé ou clivé, hein, qui mène à un trouble, une pathologie, une difficulté et qui fait qu'on nous amène des patients et des patientes pour pouvoir en dire quelque chose, en faire quelque chose, en être quelque chose ensemble. Et donc, il convient vraiment de s'interroger sur les signes qui sont perçus d'une demande de soins. Il y a une demande manifeste, mais il y a également une demande latente, hein, qui s'inscrit en filigrane du signe, hein, qui parfois s'affiche dans la somatisation d'une souffrance qui n'est pas appropriée, en témoigne d'ailleurs toute la clinique psychosomatique. Et puis l'observation particulière de la demande qui est manifeste, hein, va nous permettre aussi de dégager des pistes de travail qui vont déterminer notre accompagnement thérapeutique. Donc l'observation, tout ça pour dire en gros que l'observation, elle ne s'effectue pas à distance, hein, on n'est pas dans un cadre positiviste où on intervient avant, après, elle est participante autant en psychologie que dans les art-thérapies. Et donc, le ou la thérapeute, elle va s'impliquer pour créer la relation avec le sujet. Et donc, le transfert est au cœur de cette réflexion où il s'agit vraiment de s'engager dans la relation pour pouvoir dégager des pistes de travail. Et ça crée un étayage qui permet, bah, l'investissement psychique et puis également le lien d'accordage pour que la névrose de transfert opère, hein, cette maladie artificielle, selon Freud, qui se déploie dans la situation thérapeutique. Et donc la relation de subjectivation, elle va impliquer que le message réfléchi par l'objet thérapeute qualifie le sujet dans sa différence. Et toutes ces projections, hein, des fonctions aussi, des fois, que l'on pourrait dire de l'ordre des imagos paternels, maternels du sujet sur l'analyste, eh bien, ils vont agir dans le transfert comme des fonctions réparatrices, hein. Tout se passe comme si c'était l'analyste qui procédait maintenant à l'inscription de l'expérience qui n'avait pas pu avoir lieu auparavant. Et donc, la réponse, eh bien, c'est cette réponse par le contre-transfert. Et celle qui aurait dû avoir lieu de la part de l'objet. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est André Green. Et donc, afin de porter cet écho, hein, cet écho à la relation primaire, eh bien, l'art thérapeute, il se doit d'organiser son cadre interne afin de garantir la réceptivité des éprouvés du sujet. Et ça, c'est une implication qui suppose une position réflexive pour le thérapeute quant à ses éprouvés à lui dans la relation. Parce qu'il y a des éprouvés en jeu, et c'est ici qu'on note vraiment l'essentialité de la supervision clinique. Donc, les pistes de travail qui vont émerger de l'observation participante, hein, dont je viens de parler, et puis du transfert, eh bien, ils vont évoluer comme ça conjointement à la relation thérapeutique au fil des séances, donc avec du temps, souvent. Et il s'agit de s'ajuster parfois dans l'instant au matériel psychique et corporel qu'amène la patiente. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, où il y a comme ça quelque chose dans un élan de surprise qui se crée dans la relation. Et puis, donc, afin d'illustrer mon propos, je me permets de partager donc brièvement une expérience de recherche issue de ma thèse de doctorat, comme je vous le disais. Donc, le sujet porte sur les effets thérapeutiques d'un dispositif de danse mouvement thérapie auprès d'adolescentes qui souffrent de troubles du comportement. La recherche, elle va se dérouler dans un institut thérapeutique et pédagogique, un ITEP, auprès de trois adolescentes qui sont accueillies dans un groupe de danse mouvement thérapie à raison d'une séance par semaine pendant 8 mois. Et ces adolescentes, elles sont indiquées en danse mouvement thérapie par donc la psychiatre et la psychologue clinicienne de l'ITEP. Elles sont âgées de 13 à 15 ans et elles présentent des troubles du comportement associés à un contexte familial difficile, des mesures judiciaires, etc. Donc, en premier lieu, moi, j'ai imaginé un dispositif qui se basait sur la suggestion d'images, qui était inspiré du langage de mouvement Gaga de Hannah Arendt, et puis l'émergence aussi d'images lors de la pratique inspirée de la discipline du mouvement authentique de Janet Adler. Donc, j'ai fait l'hypothèse qu'en se reliant à leurs sensations, à leurs mouvements, à leurs images, à travers une improvisation dansée, eh ben, ces adolescentes qui souffraient de troubles du comportement, elles pourraient sortir possiblement de leur fixation corporelle, elles pourraient aborder de nouveaux rapports au corps, figurer leurs sensations par le mouvement, exprimer leurs émotions. Voilà. Alors, on rêve toujours beaucoup hein, dans les objectifs thérapeutiques. Bon, voilà. Et donc, l'idée, c'était qu'en fait, ces pratiques qui convoquaient l'image mentale, comme le gaga, qui est une pratique d'improvisation à partir de la suggestion d'image, eh bien, ça allait faciliter l'attention corporelle, la capacité de rêverie, etc. Et puis, le deuxième dispositif sur lequel je me suis appuyée pour ma recherche de thèse, c'était le dispositif donc, du coup, du mouvement authentique, mais inspiré de la discipline du mouvement authentique de Janet Adler, et donc qui est une pratique d'association libre hein, pour ceux qui, et celles qui ne connaissent pas cette pratique-là, par le mouvement, qui va favoriser les émergences inconscientes. Et donc, ça vient venir convoquer finalement le matériel inconscient dans le mouvement, mais sans suggestion préalable. Donc, il n'y a pas d'image voilà, préalablement donnée. Et donc là, c'était l'idée d'adopter une posture vraiment d'attention, en tout cas de garder en fait finalement cette attention à ce qui émerge dans l'instant. Donc, le sujet en mouvement, il ne va pas s'appuyer sur ces images mentales suggérées par un guide ou une guide pour contacter ses propres images ou sensations, mais c'est vraiment en explorant ben, son propre soma, sa propre psyché à travers un mouvement spontané qu'il y a un contact qui va peut-être se faire avec des images, des sensations, voilà, des émotions. Et donc, le matériel inconscient, il va prendre forme dans le mouvement, mais sans suivre de directive. Et donc, en amont de la rencontre avec ces adolescentes, je suppose qu'elles auraient besoin de relancer leur capacité de rêverie, d'où tout mon travail autour de cette histoire d'image suggérée ou non. Et voilà, ces deux pratiques corporelles, elles me semblaient pertinentes puisqu'elles placent pour l'une le sujet dans un bain d'image mentale suggérée et puis pour l'autre émergent, hein, dans le cas du mouvement authentique, de la discipline du mouvement authentique de Janet Adler. Donc, il me semblait que la symbolisation au travers de ce processus finalement créateur leur permettrait eh bien, de transformer leurs angoisses qui se manifestaient actuellement par des troubles du comportement, notamment l'agitation psychomotrice, auto- et hétéroagressivité, de l'opposition, des colères, de l'intolérance à la frustration. Or, je remarque que rapidement, ce dispositif que j'avais pressenti ne fonctionne pas du tout. Les premières séances, elles sont marquées par l'opposition. Les adolescentes attaquent constamment le cadre, elles testent les limites du dispositif. Une des limites principales, c'est la question de l'introspection. Un des écueils du premier dispositif de recherche, c'est de s'adresser à ces adolescentes comme je l'ai précédemment fait avec des adultes. Donc, je peux vraiment aussi avancer que chez ces jeunes, les troubles du comportement, ils viennent aussi finalement gêner leur accès à un état de concentration mentale qui est propice à l'introspection. Et puis la suggestion et l'écoute des images pour développer l'imagination et puis soutenir la création s'avèrent vaines, tant ces consignes en fait paraissent beaucoup trop libres pour ces jeunes filles qui ont besoin d'un étayage et puis d'un cadre sur lequel s'appuyer. Il y a vraiment besoin d'un modèle à l'intérieur duquel elles peuvent s'arrimer et se structurer. Et puis je renvoie également à Jean-Pierre Klein et puis à toute sa notion de stratégie du détour où là il y avait quelque chose de trop confrontant et beaucoup trop frontal dans cette démarche. Et donc ce besoin de support là, que j'observe de leur part, ce besoin de contenance, de cadre sont assez criants. Et donc en tant que dans ce mouvement thérapeute, bah, ma présence doit à ce moment-là assurer une fonction de parexcitation à l'impulsivité et à la violence des mouvements psychiques et corporels. Donc, quand chez ces adolescentes à pathologie sévère, la difficulté à être en relation avec soi et puis avec l'autre va renforcer des effets dévastateurs de l'excitation, il faut non pas gérer, comme on l'entend si souvent à l'heure actuelle, mais contenir l'excitation, les débordements, les passages à l'acte possibles, voire les délires. Ça, c'est Catherine Potel qui l'écrit. Et leur mouvement et leur corps, elles donc appellent vraiment à l'enveloppement. Et c'est vraiment qu'à travers un support étayé, contenant, qu'on peut supposer que la fonction du rêve et puis de l'imaginaire, hein, peut se réamorcer, mais dans un second temps. Donc, la considération de ces limites m'amène à convoquer une théorie clinique qui aborde la contenance. Donc, dès le début de l'accompagnement, il apparaît que les besoins de ces jeunes filles, eh ben, relèvent d'une fonction contenante, hein, comme Bion l'a amené, les corps donc qui sont morcelés, qui sont empêchés, eh bien ils ont besoin d'être enveloppés. Les comportements explosifs, eh bien ils nécessitent un cadre fort, un travail sur l'ancrage, les appuis, mais aussi les limites. Et que finalement répondre à ce besoin de contenance, eh bien ça apparaît être la porte d'entrée pour éveiller une qualité de présence à soi, une organisation, une structuration des corps, ainsi qu'un apaisement psychique et corporel. Donc, il y a une grande attention qui est portée sur ce qui aide les adolescentes à entrer dans le mouvement, à s'apaiser émotionnellement, à se détendre corporellement, et puis à sortir aussi des défenses qu'elles mettent en place, hein, qui sont l'impulsivité, la violence, une logorrhée envahissante pour certaines, le repli, etc. Et donc, comment les amener finalement à investir leur relation d'objet, donc, toute cette étude, elle va s'appuyer sur deux concepts cliniques qui sont fondateurs du lien primaire à l'autre, que sont le holding de Winnicott et puis le moi-peau dans yeux. Et donc, la contenance, elle va apparaître comme l'axe majeur finalement de cet accompagnement de ces trois adolescentes, tant leur corps et leur comportement, ils sont marqués par ce qu'on appelle une indistinction des frontières, une indifférenciation en fait des enveloppes corporelles et psychiques. Y a un besoin de limite, de bord, hein, et plus globalement, la nécessité pour ces adolescentes, eh bien, d'être contenues, autant psychiquement que physiquement. Et ça apparaît être les voies d'accès à la symbolisation comme un possible facteur de développement du lien d'accordage. Donc, la théorie du holding, hein, de Winnicott, elle va être un vrai support théorico-clinique pour moi, pour m'appuyer justement sur tout ce travail de contenance, particulièrement chez ces adolescentes qui sont peu soutenues dans leur cadre familial. Donc, le concept de holding, très rapidement, mais ça signifie littéralement maintien, portage, et ça désigne vraiment l'habileté, en fait, hein, du parent à maintenir le bébé. Et puis plus largement, la qualité des soins qui sont prodigués au bébé. Et donc le terme maintien, holding, est utilisé pour dénoter que l'on porte physiquement l'enfant, mais il désigne aussi tout ce que l'environnement lui fournit antérieurement au concept de vie commune. Donc en assurant un holding réussi, eh bien la figure d'attachement, elle va participer au développement psychique et corporel de l'enfant, l'ouvrir à la relation, au monde, hein, au final. Et à l'inverse, un holding défaillant, eh bien, va constituer une menace pour l'enfant qui va introjecter finalement la faillite, hein, de l'environnement et puis la symboliser par l'angoisse. Et d'après Winnicott, un des types d'angoisse majeure développée par l'enfant réside dans la carence de la relation psychosomatique. Et dans cette étude, l'angoisse, pardon, va vraiment altérer le schéma corporel des adolescentes. Elle va se rendre visible dans les manifestations corporelles pathologiques. Donc, il n'est pas anodin d'observer chez elle un morcellement corporel très présent, et particulièrement chez l'une d'entre elles que je nommerai Maeva. Maeva. Alors, donc Maeva, c'est une adolescente dont le corps est très fin, avec de grandes jambes, et puis son visage est très expressif. Et lorsque je la rencontre pour la première fois, elle m'apparaît vraiment comme montée sur ressort, comme Zébulon, là, dans Pollux. Il y a quelque chose où elle me parle avec de grands gestes vifs, soudains. Il y a vraiment une excitation qui est palpable, autant lorsqu'elle parle que quand elle est en mouvement. On a l'impression qu'elle est constamment débordée comme ça par un flot, qu'elle peut s'empêcher d'exprimer, de sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a vraiment comme ça l'idée un peu, voilà, d'un état un peu limite. Il y a quelque chose de, voilà, qui est aussi très proche du processus adolescent, mais il y a quelque chose, voilà, elle prend beaucoup de place en parlant fort, en coupant la parole à autrui, en n'écoutant souvent pas les réponses à ses questions. Elle me renvoie vraiment, en fait, à moi, l'image d'une pile électrique. Donc, pour l'anamnèse, c'est une jeune qui est âgée de 12 ans. Elle est admise à l'ITEP pour retard global de développement, d'apprentissage, troubles attentionnels et anxiété. Elle vit avec sa mère et partiellement à l'ITEP en internat. Son père ne la reconnaît pas. Il est souvent absent du domicile familial. Et puis elle, c'est l'aînée. Et ses frères et sœurs, ils sont nettement plus jeunes qu'elle. Et les parents, eh bien, sont séparés, mais ils revivent ensemble par intermittence. Enfin, le cadre familial est assez peu clair et stable. Lorsqu'elle est toute petite, elle est placée à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance. Et l'encadrement familial ne paraît pas structurant. L'équipe thérapeutique rapporte une difficulté pour Maeva de trouver sa place au sein de la famille et dans le rapport à la mère. Elle peut être par exemple délaissée sur le plan de l'hygiène, elle a fréquemment des poux, donc elle arrive en séance avec plein de poux, donc la famille ne s'occupe pas. Voilà, donc il y a un précédent ITEP dans lequel elle était accueillie qui a émis un signalement. Elle présente des troubles du sommeil, des réveils nocturnes, des difficultés d'endormissement. Elle est diagnostiquée, ça c'est la grande mode, mais bon, TDAH, dyslexique, dyscalculique, avec une suspicion de dysphasie. Voilà, elle est accueillie en ULIS au collège, mais elle semble difficilement intégrée dans sa classe. Elle peut avoir des comportements impulsifs, voire violents vis-à-vis d'autrui. Et elle est indiquée en danse thérapie, donc par la psychiatre et la psychologue clinicienne de l'institution, puisqu'elle semble déborder corporellement jusqu'à l'épuisement. Elle est très agitée et elle exprime son excitation de manière corporelle, tout autant que vraiment par une incessante logorrhée. Elle n'arrête pas de parler. Et donc, l'expression de cette excitation débordante dans le mouvement créateur, ainsi que la contenance du cadre et du dispositif de danse-thérapie, pourrait éventuellement l'aider à s'apaiser et à se structurer.
Julien
Et
Marine,
puis, oui.
j'ai le rôle de casse-pied.
Oui, je sais.
Tienne le temps et on a normalement encore 10 minutes qui seraient plutôt pour les questions. À toi de voir ce que tu veux mettre en avant pour qu'on ait un temps de questions. Je pense qu'on va squeezer la pause, mais n'hésitez pas à vous mettre quand même en mouvement à un moment. Comment tu préfères faire, Julien Marine, là sur les du coup, les 10 minutes, 10-15 minutes restantes.
Je vais conclure pour laisser les gens participer davantage. Je pense que ça va être mieux, ça va être très rapide, mais je vais conclure en 4 minutes. C'était
Yes,
plus long à la
ok.
base, mais je vais conclure. Je pense que c'est plus intéressant que les gens échangent plutôt. Voilà.
Ok. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas qu'il y a l'article est publié dans la revue. Donc, voilà, pour aller vraiment dans les détails. C'est vrai que des fois, c'est un peu difficile de gérer son temps. Je te laisse la parole.
Merci. Je vais juste vous montrer rapidement comment j'ai aussi, je me suis appuyée sur des outils pour observer davantage, donc du coup, l'évolution de Maeva. Donc, je me suis appuyée sur une grille hein, que j'ai empruntée à Suzy Tortora et que j'ai modifiée, voilà, un petit peu. Là, c'est juste par rapport à l'espace et à la rythmicité, puisque ça me paraissait très intéressant du point de vue de Maeva par rapport à un espace contenant, au fait qu'on venait chercher à faire contenance spatialement et comment le rythme lui a permis aussi de trouver eh bien, une forme de contenance, hein, puisque le rythme lui a permis de se structurer aussi. Donc, je voulais juste voilà, montrer cette grille-là qui pourrait être peut-être intéressante pour certains, certaines. Puisque ça vient enrichir l'observation. Donc, il y a une quinzaine d'items. Là, je montre juste espace et rythmicité, mais ça montre vraiment que du début de l'accompagnement jusqu'à la fin, il y a une évolution qui se tisse. J'ai également utilisé voilà, la grille de l'effort de Laban, qui est aussi un outil en tant que mouvement thérapie qui peut être vraiment très pertinent justement pour observer les évolutions justement. Dans le mouvement, mais je passe très rapidement parce que voilà, c'était juste, voilà, j'ai pas trop le temps, mais voilà, je me suis beaucoup d'ailleurs, enfin j'ai beaucoup échangé, toutes mes grilles ont été supervisées par Angela Loureiro, donc je me permets de rendre à Angela ce qui appartient à Angela, et donc c'était d'ailleurs un bonheur de travailler avec elle, et je vous renvoie vers ses ouvrages pour davantage de précision. Voilà, et puis bien sûr, on terminait par un dessin où je leur posais une consigne qui était si mon corps pouvait parler, il dirait. Et puis elle dessinait ce qu'elle souhaitait. Et donc, au début, Maeva, elle allait figurer uniquement des personnages, etc. Souvent plutôt mignons, des nounours, etc., comme on le voit sur le premier dessin. Et puis à la dernière séance, elle a plus parlé, notamment. De pratique de scarification de ses camarades. Donc, elle venait déposer en séance des choses qui l'agitaient au dehors. Elle se servait de la séance pour venir déposer voilà, des angoisses qu'elle pouvait avoir alors qu'elle ne le faisait pas du tout en début de séance. Voilà, je passe rapidement sur les résultats, mais en gros, voilà, il y a eu un développement des capacités corporelles, un élargissement de la palette expressive et puis du coup un développement des capacités psychiques. Ça, je l'ai traité avec un verbatim où j'enregistrais donc ce qu'elles me racontaient ensuite de leur dessin en séance. C'était un échange groupal entre elles, moi et puis l'éducatrice avec qui je menais les séances. Et puis en termes de compétences sociales, du coup on voit à travers les cas cliniques. Là, je voulais vous en présenter un, mais j'ai pas trop eu le temps, mais vous le verrez dans les écrits voilà de la revue publiée par le SFAT. L'idée, en fait, vraiment d'une ouverture vers l'autre lorsque ça se structure à l'intérieur de soi. Voilà, donc je voulais juste finir en disant que c'est au travers de l'expérience même, en fait, du terrain clinique de nos accompagnements, de notre capacité d'écoute et d'observation des demandes et des besoins des publics accompagnés qu'on peut penser et construire des réflexions théorico-cliniques pour affiner le lien entre soins et art.
Par rapport à tes deux items de la grille de Tortora, cette partie rythmicité, elle est appuyée sur aussi un peu Kestenberg ou pas? Je me souviens pas sur quoi travaille.
Alors, Suzy Tortora, elle peut s'appuyer un peu sur Kestenberg, mais je ne sais pas après quelles sont ses autres influences. Moi, je me suis aussi beaucoup appuyée sur le travail d'Ernst Duplan et puis de Franz Schott-Bielmann, également pour cette partie-là.
D'accord, super. Donc tu prends cette notion de rythmicité soutenue par ces références théoriques avec la danse rythmothérapie et l'expression primitive. Oui, il y avait une question tout en haut par rapport au Gaga. Il y avait quelqu'un qui posait la question si c'était à voir, si ça se rapprochait un peu au Body Mind Centering.
Non, non, non. Dans le body mind centering, on va retrouver par exemple tout un travail autour des systèmes. Là, il y a vraiment, vraiment. Alors, on peut. Je vois ce qui a fait penser à ça. C'est la suggestion d'images. Puisque dans le body mind centering, on va aussi s'appuyer souvent sur des images, notamment voilà, pour se mettre en contact avec les différents systèmes qui donc muscles, peau, os. Etc. etc. Et puis voilà, sur des mobilités spécifiques. Donc, on pourrait dire finalement que tout ça, ce sont des pratiques corporelles qui peuvent utiliser l'image, le BMC, la pratique Gaga, la pratique Feldenkrais. Enfin, voilà, il y a plein de thérapies corporelles ou de pratiques corporelles qui vont justement s'appuyer sur la suggestion mentale. Après, la pratique du Gaga, il y a quelque chose. De l'ordre d'une dimension artistique très beaucoup plus poussée Alors que dans le body mind, j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre voilà, du travail du corps, body work en anglais, donc tout ce travail autour des structures du corps qui peut s'utiliser dans différents champs, la thérapie à l'art, mais il n'y a pas toute cette dimension artistique. Il faut savoir qu'Ohad Naharin, le chorégraphe donc, de la Batsheva Company, Dance Company, qui utilise le gaga, il le faisait vraiment en fait comme une sorte de warm-up, d'échauffement pour ses danseurs et danseuses. Voilà, à la place finalement des warm-up ou des échauffements de ballet classique qu'on peut trouver souvent dans les compagnies. Et il s'appuie sur cet échauffement-là ensuite pour pouvoir créer voilà, ses chorégraphies, etc. C'est plus dans ce sens-là, peut-être la différence, elle est à l'œuvre.
Si je peux me permettre, par rapport à ce que tu dis aussi, c'est qu'on voit justement dans le gaga une plus grande libération et disponibilité du corps grâce à la pratique et ses différents supports aussi d'image. Et avec le body mind centering, une conscience qui se développe de plus en plus due à une expérimentation de l'anatomie expérientielle aussi, avec les différents systèmes aussi du corps qui va soutenir aussi le processus de mise à disposition du corps, mais c'est des procédés de mode d'entrée un petit peu différentes. Personnellement, moi, la présentation me parle, me touche beaucoup, vu que c'est aussi ma spécialité. Et je tenais à te remercier déjà de cette invitation à utiliser aussi les supports théoriques artistiques, car sont aussi au cœur de notre corpus théorique pour justement, quand tu l'abordes et tu présentes sur quoi tu te bases, même si le dispositif n'a pas marché au début, quand tu abordes justement cette exploration par le gaga, puis ce support par la DMA, mais tu prends déjà des outils qui viennent beaucoup de ce terrain, et que après, grâce à ton regard de clinicienne, tu ajustes et tu dis, bah non, on va faire autrement pour développer plus telle autre partie. Et ça aussi, ce point, je voulais te remercier car ce n'est pas facile de témoigner de choses qui ne marchent pas. Et ils sont super formatrices, en fait. Et c'est rare, en fait, de l'avoir. Souvent, c'est, ah, ça marche. Ben non, ça n'a pas marché. Et de inviter, justement, et partager ta réflexion de quoi il était question à ce moment-là pour ces adolescentes que tu accueillais, en fait. Donc, je sais pas comment ça a été pour toi, justement, ce processus de réajustement de dispositif.
Ça a été déroutant dans un premier temps et puis très riche et intéressant puisque ça m'a justement permis d'être à ma place en fait dedans ce mouvement thérapeute. Il y avait vraiment toute cette pendant toute ma recherche de doctorat, il y avait vraiment cette question, c'était d'avoir une position de chercheuse en même temps que celle dans ce mouvement thérapeute sur un même terrain. Et donc du coup, voilà, là j'ai vraiment pris à bras le corps le fait d'endosser ma position dans ce mouvement thérapeute à ce moment-là, de m'ajuster aux besoins. Et puis, j'ai fait suivre la recherche ensuite. Et ça m'a amené vers Winnicott, vers Anthieu. En fait, je suis vraiment. Je remercie ces patientes. D'ailleurs, je les remercie dans ma thèse parce que sans elles, je n'aurais pas abordé, en fait, aussi au niveau théorico-clinique, tous ces auteurs, tous ces points-là, ça m'a vraiment permis en fait d'avancer et c'était beaucoup plus riche qu'une recherche où il n'y a aucun hiatus et où tout se déroule comme c'était prévu au départ, quoi.
Donc c'est une petite question de définition et en tout cas est-ce que vous pourriez, alors Paola, tu pourrais peut-être aider aussi, comment on distingue la danse thérapie de la danse mouvement thérapie? Quand on a présenté le syndicat tout au début, on a fait cette distinction car elle est importante. Ça serait super d'avoir la réponse. Julia Marine, si tu
Ah,
veux.
Paula, c'est ton domaine de prédilection.
Ah bah tu me parles de la patate chaude, toi.
Bon, je peux en dire quelque chose et puis te filer la patate ensuite si tu veux un peu plus tiédi. L'idée, en fait, c'est vraiment que la dimension danse mouvement, d'accoler le terme mouvement, en fait, vient prendre en compte aussi eh bien, le fait qu'on n'est pas forcément. Enfin, ça, c'est l'éternel débat où et quand finit la danse, où commence et quand finit la danse, mais il y a l'idée aussi que le mouvement, juste du mouvement, et notamment je pense à toute la clinique du polyhandicap, etc., où est-ce qu'on peut parler de danse s'il y a juste voilà, un doigt qui se lève. Enfin, il y a vraiment toute cette idée aussi qu'on accole le terme mouvement pour penser la globalité et qu'on ne part pas tout de suite dans une idée de danse, mais que rien que faire émerger du mouvement, c'est déjà là le travail qui commence. Je ne sais pas si, comment tu peux compléter ça, je ne suis pas très précise, je suis désolée.
Non, super. Alors, c'est vrai que ça, c'est un petit peu une spécificité, non, pas que française, parce qu'il y a une distinction comme ça dans d'autres pays, car la danse thérapie, de par l'histoire aussi en France, répond un petit peu à des techniques ou des écoles un peu précises. Et la danse mouvement thérapie répond à plutôt la discipline liée aux arts thérapie. Donc, on va dire que justement dans la danse mouvement thérapie, on va être dans une approche qui à la base est plus inspirée, fait partie intégrante des arts thérapie en tant que orientation plus psychothérapeutique et approche de soins psychiques. Et dans les danses thérapie, souvent on va être dans des techniques parfois qui vont aller dans du thérapeutique, dans de la thérapie, mais pas uniquement une dimension plus psychothérapeutique avec une nécessité de formation à toutes ces grilles, en fait, Julia, que tu es en train de partager. Tout ce qui est l'analyse du mouvement Laban, l'analyse du mouvement Questenberg, des outils qui sont dans cette utilisation-là, en fait, plus proche. Et dans la danse thérapie, nous pouvons avoir d'autres types de techniques. On a, par exemple, qui viennent de l'Amérique latine, la danza terapia de Maria Fuchs. On a pour la France, la danse thérapie à la base, mais que maintenant s'appelle danse rythme thérapie de Franz Schoetbillmann. On a l'expression privative, plutôt orientation Herz du Plan, qui est une danse thérapie. Et on a d'autres styles. Et dans la danse mouvement thérapie, en tant que cadre plus psychothérapeutique, on peut utiliser ces outils-là, en fait. Mais c'est un cadre global plus parfois même avec des références un petit peu anglo-saxonnes, un petit peu. Et aussi, il y a une confusion de termes parce que ça a été une définition, une traduction textuelle du mot dance therapy de l'anglais, qui était associé à danse mouvement thérapie. Mais pour la France, c'est un peu confus ce que je dis. Parfois, le fait de dire danse thérapie, c'est toute danse qui procure du mieux-être. Et donc, on n'est pas forcément dans le domaine de la thérapie comme soin. Donc, c'est une façon de distinguer un petit peu, mais aussi de reconnaître des techniques très précises qui ont des écoles qui forment à une orientation précise. Il y a des danses thérapies qui viennent de danses traditionnelles africaines, comme la danse longo, ponctuelle. Mais en danse mouvement thérapie, il n'y a pas une technique en soi. C'est un cadre, un dispositif, un métier qui s'enrichit de plusieurs types de dispositifs.